que ve shooting de
Radio France Internationale.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Et ce soir, c'est avec vous, Lucia Mouzel de la rédaction brésilien.
Bonne nuit.
Pour un premier bilan des réunions du G20 qui se tiennent au Brésil, notamment la réunion des finances. Ana Maria Ospina de la rédaction en espagnol.
Un gusto saludarlo.
Les discussions entre le British Museum et les Rapa Nui de l'île de Pâques qui appartient au Chili au sujet des Moai. Et Thu Hang Li de la rédaction vietnamien.
Si, ciao.
Face aux réclamations de souveraineté chinoise en mer de Chine méridionale, deux différentes approches de gestion entre le Vietnam et les Philippines, on verra cela tout à l'heure. Mais tout d'abord, ce qui fait la une de l'actualité, c'est la question de l'IVG, après la décision en France d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Le Sénat a voté en ce sens cette semaine. Et lundi, après le week-end, se réunira le Congrès à Versailles, c'est-à-dire l'ensemble des députés et des sénateurs. Ainsi, l'IVG figurera dans le texte fondamental de la République française et ce sera une première mondiale. Alors voyons ce qui se passe ailleurs dans le monde. Ana Maria, aux États-Unis, en juin 2022, la Cour suprême a décidé d'abroger les droits fédéraux à l'avortement. Et au début de semaine, vous avez abordé une des conséquences aux États-Unis de cette décision.
Philippe, plus de 64 000 femmes et jeunes filles sont tombées enceintes à la suite d'un viol dans les États qui ont interdit l'avortement. C'est ce qui ressort d'une nouvelle étude menée par une organisation fédérale de santé reproductive. Notre correspondant à Washington, Cristobal Vázquez.
Texas encabezó la lista con el 45% de los embarazos relacionados con violaciones. Cabe mencionar que desde que la
Corte Suprema... ¿Quel est le compte rendu de notre confrère?
Il explique que au Texas est en tête de liste. Il a 45% des grossesses liées au viol. Il convient de noter que depuis que la Cour suprême a annulé l'arrêt historique Roe v. Wade, comme il s'appelait, en juin de 2022, 12 États interdisent presque totalement l'avortement. Une douzaine d'autres ont mis en place des restrictions sévères sur l'avortement et la santé reproductive des femmes.
Alors le président américain Joe Biden promet, si les électeurs le réélisent en novembre et lui donnent la majorité, il promet de rétablir le droit à l'avortement dans tout le pays.
Notre correspondant Vázquez a indiqué que c'est une question que le président Biden utilise comme bannière de campagne. Et pour attirer les votes des femmes en vue de sa réélection, il faut se souvenir que pendant presque 50 ans, l'avortement était légal dans tous les pays avant d'être annulé il y a un an et demi par une cour suprême devenue ultra-conservatrice.
Toujours sur le continent américain, le Brésil, Lucia, il est également question de l'IVG au Brésil. Le gouvernement a modifié une loi de l'époque de l'ancien président, Jair Bolsonaro, sur l'avortement. Avant de revenir sur ses pas, tout d'abord, est-ce que l'avortement est autorisé au Brésil ?
Pas comme en France, Philippe, loin de là. L'interruption médicale de la grossesse est autorisée au Brésil selon des règles très précises depuis l'année 1940, mais seulement quand elle porte atteinte à la vie de la mère ou si la grossesse a eu lieu suite à un viol. En 2012, la Cour suprême brésilienne a élargi ce spectre en rajoutant les cas de malformations sévères du fœtus, c'est-à-dire que dans toute autre situation, l'avortement est considéré comme un crime, entraînant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Le choix personnel de la femme, par exemple, ne compte pas du tout.
Je le disais, l'ancien président d'extrême droite avait fait reculer ce droit à l'avortement, fort d'un congrès qui reste toujours très conservateur.
Oui, en effet, le gouvernement Bolsonaro et ses alliés évangéliques ont exigé qu'un délai de 21 semaines et 6 jours maximum de grossesse soit déterminé pour son interruption, toujours dans les cas précisés par les lois de 1940 et 2012. Jusqu'alors, il n'y avait pas de limite pour que la femme décide de ne pas poursuivre cette grossesse indésirée. Avec ce changement, on a vu par exemple le cas de cette petite fille de 11 ans, enceinte après un viol, se faire refuser son droit à l'interruption de sa grossesse, car le nombre des semaines de sa grossesse était déjà trop proche de la nouvelle limite légale imposée. En 2023, avec le changement au pouvoir, la gauche brésilienne a demandé à ce que au moins ce délai soit éradiqué. Et ce qu'a fait le ministère de la Santé cette semaine, revenant en arrière sur une décision restrictive du gouvernement précédent, sauf que cette mesure n'a duré que quelques heures finalement.
Alors comment expliquer cela? Pourquoi Paraguay?
Officiellement, parce que la décision n'était pas encore passée par toutes les instances juridiques comme il fallait, le risque étant que l'opposition demande à la justice de l'annuler. Donc, la ministre de la Santé a également précisé qu'elle préfère que le sujet soit au préalable discuté avec les juges de la Cour suprême, toujours dans ses soucis de précaution pour qu'une fois adoptée, cette règle soit vraiment définitive. Mais officieusement, tout de suite après l'annonce de cette mesure, l'extrême droite, défenseur de cette famille traditionnelle, comme ils disent, elle s'est fortement mobilisée sur les réseaux sociaux contre cette mesure. L'élargissement du droit à l'avortement est un des thèmes qui avait beaucoup polarisé le Brésil lors de la dernière campagne présidentielle en 2022. Les partisans de Bolsonaro accusaient, entre guillemets, Lula de vouloir généraliser ce droit, au point que le candidat de gauche à l'époque a été obligé de nier publiquement cette intention qui risquait quand même d'attendre ses chances de gagner l'élection à l'époque.
Alors aujourd'hui, comment réagissent les défenseurs de l'avortement face à cette polémique?
Ils poussent la Cour suprême justement à s'emparer du sujet et au plus vite, comme ce fut le cas il y a plus de 10 ans, car manifestement, il n'est toujours pas facile de faire avancer ce droit au niveau politique au Brésil. Vous savez, ces groupes évangéliques ultra-conservateurs ont accédé directement au pouvoir au Brésil au cours des 20 dernières années. Alors, quand même la gauche est forcée de se positionner contre tout changement de la loi, faute de soutien majoritaire dans l'opinion publique, il ne reste que le pouvoir de la justice pour le faire, et encore, ce ne sera pas évident.
Ailleurs, en Amérique latine, quelle est la situation, Ana Maria? Dans quel pays l'accès à l'avortement est totalement légal?
La Colombie est le pays où la limite de gestation est la plus élevée pour l'avortement libre. Depuis février 2022, l'avortement est légal en Colombie jusqu'à 24 semaines de gestation. En Argentine, l'avortement est légalisé, mais le délai est plus court. On parle des 14 semaines et jusqu'à 12 semaines en Uruguay et au Cuba.
Et pour le Mexique, en septembre, la Cour suprême a pris une décision pour empêcher les femmes d'être emprisonnées pour avoir interrompu leur grossesse.
Une décision historique, disent les ONG des défenses des droits reproductifs au Mexique, qui attendaient cette décision depuis des années. Et les juges de la Cour suprême de justice ont approuvé une injonction déposée par une association visant à annuler l'article du code pénal qui criminalise l'avortement. Ils disent que c'est inconstitutionnel. Mais il reste encore des étapes à franchir, selon Rebecca Ramos, qu'on va écouter. Elle est directrice du GIRE. C'est un groupe d'information sur les choix de la reproduction, l'association qui a gagné le procès.
Es un fallo histórico definitivamente, aunque todavía nos falta en México que 20 estados.
Que dit Rebecca Ramos?
Qu'il s'agit sans aucun doute d'une décision historique, même si au Mexique, il faut savoir que c'est organisé comme les États-Unis, c'est-à-dire par des États. Il a une idée générale, mais chaque État peut le décider. Et 20 États encore n'ont pas encore modifié leur code pénal, et il faut attendre que ça soit vu dans tous les pays d'abord, et c'est ça qu'elle fait.
Voyons maintenant dans quel pays avorter est encore considéré comme un crime, Ana Maria.
Est considéré une infraction pénale dans toutes circonstances, au Salvador, en Haïti, Honduras, au Nicaragua et en République dominicaine. Les femmes qui ont y recours, ils peuvent aller en prison, et les gens qui les aident aussi.
Changeons de continent, l'Asie à présent, les Tuang, l'IVG est légal au Vietnam, qui l'autorise depuis 1989.
Alors, le Vietnam autorise l'IVG depuis 35 ans, on peut dire, en 1989, et l'article 44 de la loi de protection de la santé publique définit que la femme a le droit à la consultation, aux soins, à l'IVG, ou donner naissance dans tous les établissements médicaux de l'État. En 2003, un décret détermine plusieurs interdictions. Par exemple, il est interdit d'avoir recours à l'IVG au-delà de 22 semaines ou par sélection de sexe de l'enfance. Et celle-ci sera encadrée par la loi pour l'égalité de sexe en 2006. Le montant d'amende varie en fonction de la gravité des violations. Il faut rappeler que les familles vietnamiennes, influencées par le confucianisme, veulent avoir au moins un fils héritier pour s'occuper du culte des ancêtres et maintenir maintenir la lignée parentale. L'IVG est donc légal au Vietnam et est très peu soumis au jugement, si bien que le Vietnam est le deuxième taux d'avortement le plus élevé au monde selon les fonds des Nations Unies pour la population. Et ce phénomène peut être expliqué par une de ces raisons. Et pendant des décennies, le gouvernement a imposé une politique limitant le nombre d'enfants à 2 par famille. Mais faute d'éducation et de planning familial, cela a conduit à une explosion des IVG. Les femmes sujettes à une troisième grossesse avaient recours à l'avortement pour éviter des sanctions économiquement.
Je reviens sur ce que vous venez de dire, sur le confucianisme. C'est-à-dire que les Vietnamiens voudraient des garçons. Ça veut dire que, du coup, quand ils savent que c'est une fille, oui, ils peuvent avorter.
Exactement.
Plus qu'ils ne l'auraient fait si c'était un garçon. C'est ça que vous voulez dire?
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Donc c'est interdit par la loi.
Il y a 500 000 cas d'IVG par an au Vietnam, dont 70% chez les jeunes, voire les mineurs, c'est entre 15 et 18 ans. Ce chiffre est alarmant.
Alors, c'est malheureusement vrai, et il y a aussi des opposants à IVG qui dénoncent une certaine liberté chez les jeunes. En 2018, par exemple, la campagne « Maman ne me tue pas » a collecté 100 000 signatures pour que l'Assemblée nationale étudie une loi interdisant IVG pour sauver 300 000 fœtus par an. C'est un peu contradictoire, mais l'avortement est considéré au Vietnam comme une mesure de contraception. Cette pratique médicale est tellement passée avant l'usage de quelconque moyen de contraception. Et en réalité, les jeunes Vietnamiens ne sont pas équipés de connaissances de base de contraception en raison du manque d'éducation sexuelle et d'une certaine gêne en parlant du sujet encore jugé tabou dans de nombreuses familles.
Et c'est le cas également dans d'autres pays ?
Alors, effectivement, mais le Vietnam est un cas particulier. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est sous l'influence du confucianisme et pendant longtemps, il était strictement interdit d'avoir les relations sexuelles avant le mariage. C'était très mal vu et considéré comme une honte profonde pour la famille. La femme subit encore aujourd'hui beaucoup des ondits, des regards si elle tombe enceinte en mariage. Et pourtant, à la maison ou à l'école, le sexe reste un sujet de quelque sorte interdit, comme j'ai évoqué, faute de libération de la parole. La sexualité protégée n'est pas abordée et la société n'a pas d'idée ce que c'est que l'éducation sexuelle, ni comment l'enseigner à l'école, par exemple, d'après un start-up vietnamien qui parle aux jeunes de sexualité.
Pour autant, la situation ne change pas, les mœurs n'évoluent pas.
Malheureusement, pour l'instant, ça change petit à petit, mais pas vraiment un progrès, on va dire profond, comme on dit. Le Vietnam a une population jeune et les comportements sexuels ont radicalement changé ces dernières années, avec des rapports plus tôt et des mariages plus tardifs. La multiplication des campagnes de sensibilisation, notamment sur Internet, une meilleure distribution des préservatifs ou bien des pilules contraceptives, ont fait bouger certaines lignes. Plusieurs associations vont à la rencontre d'étudiants, par exemple, qui perçoivent le sujet plus ouvert et ceux qui comprennent aussi que la protection n'empêche pas uniquement les grossesses, mais aussi les maladies sexuellement transmissibles. Ça bouge, mais le sujet reste encore sensible dans les foyers.
Voilà pour la situation de l'avortement dans le monde. Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
This is Radio France International.
De Paris, RFI, $100.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Venons-en au coup d'envoi du G20 au Brésil, avec des réunions des ministres des Finances du groupe. Cela se passe à São Paulo. Et en tant que président tournant du G20, le Brésil entend bien renforcer la voix du Sud global, comme on dit, dans cette instance internationale. Et pour la première fois, Lucia Mouzel, de la rédaction brésilienne, l'Union africaine sera de la partie en tant que membre permanent.
Tout à fait. L'entrée de l'Union africaine au G20 a été officiellement approuvée en 2023 et maintenant elle participe activement des discussions, aussi bien que l'Union européenne depuis longtemps et les 19 plus grandes économies mondiales. Le continent africain était jusqu'alors représenté uniquement par l'Afrique du Sud, avec le bloc africain désormais une des principales priorités de la diplomatie brésilienne en tant que président tournant du G20 est renforcée, c'est la réforme des institutions multilatérales de la gouvernance globale, notamment financières comme le FMI et la Banque mondiale. Le G20 peut en influencer directement sur les décisions de ces organismes. Cependant, il faut avoir en tête que cette réforme est demandée depuis longtemps par les pays émergents et la seule entrée de l'Union africaine dans le groupe ne changera pas tout de suite la dynamique des forces à son intérieur. C'est ce que nous a rappelé la professeure Lia Vos Pereira de l'Université de l'État de Rio de Janeiro et experte senior au sein du Centre brésilien de relations internationales.
O G20 não é um órgão, não é uma instância deliberativa, né? Que o G20 só pode.
Quelle est son analyse?
Elle dit que le G20 n'est pas une instance contraignante. Il ne peut que faire des propositions sur des grands thèmes de l'actualité. Elle croit que la plupart des pays peuvent être d'accord avec ces réformes envisagées par les pays du Sud, notamment au Fonds monétaire international. Mais cela peut prendre encore longtemps, car ces institutions aussi reflètent ces relations de force entre les pays et sont les États-Unis, les Européens, le Canada ou le Japon. Rien ne se fera finalement.
C'est peut-être pour cela qu'au cours de cette année, le Brésil entend bien faire avancer l'entrée d'autres membres du Sud dans le G20.
Ce sera bien évidemment difficile, juste après cette approbation de l'Union africaine, qu'en tant que bloc représente quand même un PIB de 3 000 milliards de dollars, donc un poids économique important. Mais ce n'est pas forcément le cas quand on regarde les pays séparément. Le Brésil veut en effet au moins lancer les bases de la discussion pour l'entrée future des pays comme l'Angola, l'Égypte, le Nigeria, ainsi que les Émirats arabes unis. Ce sont au total 7 pays envisagés par la diplomatie brésilienne. C'est la Bolivie encore, l'Uruguay, le Paraguay en Amérique du Sud qui complètent cette liste d'intentions. Objectif, apporter plus d'équilibre aux décisions du G20 en sorte que les demandes du pays du Sud soient mieux écoutées.
Et puis dans le cadre de ce G20, cette semaine a eu lieu à Sao Paulo un forum sur le financement climatique qui est un besoin pour financer la transition écologique des pays du Sud. Alors comment ces deux agendas, réforme des institutions internationales et crise climatique, peuvent-ils dialoguer?
Alors ces deux thèmes sont totalement liés. Une bonne partie des barrières pour les financements des pays du Sud, notamment des projets liés à l'environnement, sont le résultat des règles très strictes des organismes financiers internationaux, d'où les critiques des pays émergents concernant le manque de confiance des pays riches à leur égard. D'autre part, leur cadre est considéré aujourd'hui comme étant dépassé, inadapté à la crise climatique que nous vivons. Dans nombre de ces institutions, il n'y a même pas de branche environnement, par exemple. Elles sont donc dysfonctionnelles et souvent imposent un niveau d'endettement qui est intenable pour la plupart des pays pauvres. Je vous propose d'écouter Sandra Guzman, coordinatrice de l'initiative Climate Finance Group pour l'Amérique latine et les Caraïbes, lors de sa participation au Forum des finances climatiques.
It's not only a matter of opening a climate change office in the IMF.
Que dit Sandra Guzman?
Elle dit que la création d'un bureau changement climatique au FMI ou dans les banques de développement ne suffira pas. Il faudra réformer profondément ces organismes et leurs objectifs aussi, qui devraient être désormais ceux de protéger les forêts, par exemple, investir dans les personnes qui respectent la nature. Elle croit que ces institutions devraient être pensées de la base vers le sommet et pas dans le sens inverse, comme aujourd'hui.
Tout cela alors que la conférence du climat de l'ONU, qui se réunira à la fin d'année, visera justement un nouvel accord sur les financements des pays en voie de développement.
Tout à fait. Lors de la COP29, les pays s'engageront autour d'un nouveau montant de financement annuel pour les pays du Sud, alors que les 100 milliards de dollars promis par an à partir de 2020 n'ont même pas été respectés par les pays riches. Le problème, c'est que depuis lors, les estimations actualisées de l'ONU sont grimpés en flèche. Les montants s'élèveraient à au moins 2,4 milliards de dollars par an. J'ai fini donc avec Nathalie Unterstel, spécialiste du financement climatique à l'Institut Talanoa.
A mobilização do financiamento privado, ela tem sido bastante modesta, né, mundo afora.
Elle dit que la mobilisation de financement privé se montre beaucoup plus modeste que les besoins des pays. L'économie dite conventionnelle, dit-elle, réussit à toujours mobiliser du capital quand il faut. Maintenant, il faut donc que ce flux financier soit enfin disloqué pour cette nouvelle économie verte, puisqu'elle est déjà bien en route dans les pays riches.
Lucia Mouzel de la rédaction brésilienne de Radio France Internationale. Maintenant, avec la rédaction en espagnol, intéressons-nous à cette polémique au Chili. Depuis plusieurs semaines, les réseaux sociaux du British Museum de Londres sont inondés de commentaires, dont beaucoup sont rédigés en espagnol. Ils n'ont rien à voir avec les publications du musée, ont été rédigés par des internautes chiliens qui réclament la restitution d'un moai volé sur l'île de Pâques en 1868. Alors Anna Maria Ospina, dites-nous d'abord ce qu'est un moai.
Un moai est une figure sculptée en demi-longueur, représentant des ancêtres de la culture de l'île des Pâques, située aux Polynésies orientales en appartenant au Chili. Ce sont des statues monumentales sculptées en pierre, extraites principalement de la carrière d'un volcan de l'île des Pâques, des facilement accessibles et par les habitants locaux, les peuples Rapa Nui. Leur taille varie entre 2 à 9 mètres. Ils ont été popularisé par les films Une nuit au musée, j'espère que vous l'avez vu,
oui,
Philippe.
Oui, bien sûr, avec Ben Stiller.
Oui, qui officie là comme gardien au musée d'histoire naturelle de New York quand la nuit tombe. Il est témoin de l'activité des statues, des squelettes, des dinosaures, des bébêtes empaillées qui prennent vie. Parmi eux, un moai dont le seul moyen de l'occuper est de lui donner un chewing-gum à mâcher.
Tonton.
Si?
Dame un chiclon.
Un chicle, amigo?
Alors, c'est un extrait de la bande-son du film qui a pour cadre le musée d'histoire naturelle de New York. Cependant, la polémique actuelle sur les réseaux sociaux concerne le British Museum de Londres.
Tout à fait, il s'agit dans ce musée-là en particulier, il a deux statues, une grande et une petite. Et c'est du moai, se trouve au British Museum de Londres depuis que quelqu'un, un influenceur au Chili, accusait les Royaumes-Unis directement de les avoir volés. Le musée est sous le feu de l'actualité. Ma collègue Melissa Barra a contacté les maires du peuple Rapa Nui, Pedro Edmund Paua, qui a expliqué que la campagne ne provient pas de l'île des Pâques, qui est d'ailleurs en dialogue avec les musées depuis des années. On l'écoute.
El Consejo de Ancianos ha estado llevando conversaciones con el museo desde el año.
Alors, qu'est-ce que dit le maire de Rapa Nui?
Il explique, les conseils des anciens, les personnes plus âgées, les sages, mènent des discussions avec les musées depuis 2018 dans le but d'établir que les moai qui se trouvent dans les musées appartiennent au peuple Rapa Nui.
Et que répond le musée?
Et les maires Pedro Edmunds entendent des rumeurs comme quoi les musées disent que les moai ont été donnés par les Rapa Nui. On l'écoute.
Nosotros no aceptamos esa versión y por lo tanto creemos que hay que continuar conversando.
En détail, il dit que les Rapa Nui n'acceptent pas cette version, qu'ils pensent qu'il doit y avoir des porte-parleurs et jusqu'à que tous les moyens diplomatiques soient épuisés.
Alors, il n'exclut pas également d'attaquer le British Museum de Londres en justice?
C'est une option. Si les dialogues, dit-il, diplomatiques n'aboutissent pas et si les musées insistent sur le fait que les moai leur ont été donnés, ils devront apporter des preuves devant les juges, il insiste. Les Rapa Nui ont déjà les services de plusieurs avocats au Chili.
Et si le musée reconnaît la propriété des moai par les Rapa Nui, est-ce que ça conduira à la restitution de ces statues?
Pas nécessairement, Philippe, dit le maire Pedro Edmond. Il propose plusieurs options, on les écoute.
Eso se tiene que necesariamente hacer una consulta en Rapa Nui, si acaso el pueblo Rapa Nui.
Quelles sont ces options?
Il en a plusieurs. Il propose tout d'abord qu'il ait une consultation au peuple Rapa Nui pour savoir si le peuple veut que leurs ancêtres, comme ils les appellent les Moai, retournent dans les musées de l'île des Pâques ou si leurs ancêtres doivent rester étant qu'ambassadeurs du peuple Rapa Nui et de la culture Rapa Nui au British Museum.
Et puis peut-être qu'il peut y avoir une sorte de partenariat entre Rapa Nui et le British Museum.
S'ils se mettent d'accord, dont l'idée c'est que les Rapa Nui demanderaient au musée aussi de donner un peu d'argent pour pouvoir conserver des autres sites sur l'île, et parce qu'ils ne reçoivent pas vraiment de l'argent de l'État du Chili et ils ont besoin en urgence pour s'en occuper. On l'écoute ?
Sería lo ideal, lo sensato, considerando.
Qu'est-ce qui serait idéal pour lui?
Les raisonnables à faire, c'est qu'ils donnent un peu d'argent parce que ces sites, ils sont vraiment, vraiment besoin. Il conclut comme ça son interview avec Melissa Vara et Pedro Edmunds Paoa de Rapa Nui.
Encore un mot, combien de moai existent sur l'ensemble de l'île de Pâques?
Il s'élève, attention, à 887 avec un poids moyen de 13 tonnes, impossible pour vous et pour moi, Philippe, de les porter. Mais les plus gros attendent 80 tonnes. Je répète, 887 moins dans toute l'île des Pâques. Tous ne sont pas visibles. Certains étant fragmentés ou ayant été récupérés pour construire des autres monuments.
Voilà, Anna Maria Ospina de la rédaction RFI en espagnol. La mer de Chine connaît de nouveaux soubresauts et ce sont autant de tensions. Les Philippines ont décidé d'être plus claires, racontent ce qui se passe désormais dans les zones de conflit de souveraineté. Dites-nous en plus, Lê Thuong de la rédaction vietnamienne.
Alors tout d'abord, il faut rappeler que la Chine réclame le plus de 80% de la superficie de la mer de Chine méridionale, qui est un couloir maritime très important pour le commerce mondial. Et depuis plusieurs mois, les Philippines relatent tous les incidents avec les gardes-côtes ou bateaux de pêche chinois, considérés comme milices dans leur zone d'exclusivité économique, ou bien voilà, le ZEE, où se trouvent les îlots occupés par les Chinois, en particulier à Scarborough et Thomas Sogon. Ils ont même en mener des journalistes étrangers sur le bateau pour pouvoir relater les incidents. Par exemple, qui parlent comment en fait, les bateaux chinois bloquaient en fait, les bateaux philippins qui ravitaillent du carburant et alimentation aux troupes sur l'ancien navire entré volontairement par Manila pour affirmer sa souveraineté à Thomas Sogon, ou bien empêcher des pêcheurs philippins à rentrer au récif Scarborough se trouvant dans la zone ZEE des Philippines et qui a été pourtant pris par les Chinois en 2012. Et les gardes-côtes philippins organisent régulièrement les conférences de presse. Le gouvernement met en valeur la coopération en matière de sécurité avec les États-Unis et plusieurs autres pays dans la région, dont le Vietnam.
Comment expliquer ce changement d'attitude, cette ouverture de l'information?
Alors, on va dire que ce changement d'attitude est très radical par rapport à ce qu'on a assisté pendant le mandat du président Duterte. Le président actuel Ferdinand Marcos Jr., au début de son mandat, s'est beaucoup attendu des relations avec la Chine, mais il semblait que rien n'ait bougé en matière d'investissement alors que les intimidations chinoises persistent en mer de Chine méridionale. Et à notre micro, le professeur Alexander Wuving, centre de recherche de sécurité de l'Asie du Sud-Est à Hawaï, a expliqué plusieurs éléments à ce changement de comportement. Écoutons-le.
Que dit cet expert de la situation?
Alors, il a expliqué que d'abord, il faut voir en fait, sur le contexte. Ensuite, il y a des interprétations des différences sur ce contexte. Là, au sein des autorités, lors d'un changement des dirigeants au sommet de l'État, chaque dirigeant a tiré une leçon qui ne ressemblait pas à l'autre, ce qui l'a incité à privilégier ses choix stratégiques. Par exemple, Duterte, le président précédent des Philippines, s'est montré souple envers la Chine car il s'est concentré sur le plan interne à la lutte contre la drogue et sur le plan international, il cherchait à élargir son réseau d'alliés parce qu'il ne croit plus aux États-Unis.
Voyons maintenant côté vietnamien, qu'est-ce que ça donne?
Alors, donc le Vietnam, tout ce qui se passe là, le Vietnamien se montre beaucoup plus discret et ce qui se passe en ce moment aux Philippines ressemble à ce que le Vietnamien a fait en 2014 quand la Chine a introduit la plateforme Haiyang 981 dans sa zone d'exclusivité économique. Et à l'époque, le Vietnam a invité plusieurs médias étrangers aussi à venir sur place pour informer ce qui se passait. Et d'après le professeur Wuving, le comportement que le Vietnam adopte actuellement doit peut-être à la perception des dirigeants.
Aidez-nous à comprendre.
Alors, il a dit depuis 2017, la Chine envoie souvent des bateaux de pêche ou des gardes de côte dans la zone d'exclusivité économique du Vietnam pour empêcher des activités économiques. Le gouvernement n'en communique pas d'informations, la population ne réagit pas et nous savons pourquoi pas, mais il y en a peut-être quelques explications. Donc, Le premier roman, le Vietnam a tiré la leçon d'après le scandale concernant le plateforme SD981. Tout étant conscient de la nécessité de défendre la souveraineté, le gouvernement ne veut plus que la colère de la population soit profitée pour provoquer de graves incidents comme en 2014. Par exemple, plusieurs usines détruites et puis plusieurs d'entre elles sont pourtant partenaires taïwanais et de tels incidents causeraient des impacts à la production et aux investissements étrangers. Il resterait silencieux les incidents, sauf que le grand pays voisin, la Chine, franchit la ligne rouge, par exemple, introduit de nouveau à notre plateforme.
Et bien sûr, la rédaction vietnamienne de RFI suit tout cela avec beaucoup d'attention. C'était Lê Thu Hằng dans Accent du Monde, à retrouver bien évidemment sur le site internet et sur les applis. Accent du Monde, réalisé ce soir par Hélène Avril.